Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 70, ici Richard Delhomme. Comme promis, voici le débrief de la FreePix avec Stéphane Waja. Nous revenons plus en détail sur les diverses péripéties qu'il a vécues pendant cette très belle épreuve, et même la conversation dévie un tout petit peu sur des sujets sérieux pour une fois. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Sans plus attendre donc, Stéphane Waja.
Allô ?
Allô, bonjour, ça va ?
Allô Richard !
Comment vas-tu ?
Bah ça va bien, ça va bien.
Ça va mieux ?
Là je me réveille une nouvelle fois d'une sieste.
Mais t'as bien raison, surtout que par cette chaleur, c'est insupportable. Enfin, en tout cas,
c'est mon côté méditerranéen.
Ah bon? Je sais pas, on en a jamais parlé, donc.
Je suis franco-tunisien. Ma mère est française et mon père est de Tunisie.
Et ben voilà qui est dit.
Tout simplement.
Voilà, et toi aussi, t'étais content de courir à l'Atlas en février, dire bonjour à tes, comme avait dit Sofiane, à tes cousins lointains,
cousins. Effectivement, bah, d'une certaine manière, ça m'a fait renouveler un peu avec mes origines, quoi. Donc ouais. ça faisait longtemps que j'avais pas été sur le continent africain, et bah, voilà, bah, revoir un peu cette ambiance, etc. Bah, ça me faisait plaisir, quoi.
Et du coup, renouer avec peut-être tes lointaines origines autrichiennes il y a 2 semaines, ça t'a fait quoi?
Ah ouais, là, ça m'a fait un peu plus bizarre. Là.
Oui, c'est pas la même ambiance, hein, l'Autriche. Ouais,
L'Autriche, effectivement, c'est pas du tout la même ambiance. Et plus, c'est un peu particulier. Moi, chaque fois qu'avant les fois précédentes où j'ai couru, où je traversais l'Autriche, par exemple sur les transcontinentales, etc., l'Autriche avait toujours été un pays un peu bizarre, où avec l'allemand, etc., où vraiment je perdais mes repères, etc. Mmh. Et là, il a fallu y retourner une nouvelle fois, et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Donc, on est content.
Ils sont gentils, les Autrichiens, hein. Puis, oui, ils viennent. Bon, malgré ce que j'ai pu dire dans le dernier épisode avec toi, donc le départ, c'était pas un bled en Autriche. C'était bien la capitale de l'Autriche, c'était bien Vienne. Et en plus, une ville magnifique. Donc, quand même,
c'est plutôt sympa, quoi. Donc, ouais.
Bah, pour qui aime la musique classique et son histoire, Vienne, ça reste quand même une référence.
Donc, après, je t'avoue, je suis pas trop mélomane.
Peut-être mélomane, mais pas musique classique, alors.
Voilà, pas plus que ça, tu vois. Donc, ouais. J'y suis pas non plus allé pour faire du tourisme, etc. Ouais. Donc, je ne saurais trop te présenter Vienne, ses avantages, sa beauté, son charme, son architecture. Quoi.
Parle-moi des Viennoises, plutôt.
Ah bah, sont comme dans le reste de l'Europe, en tout cas.
Bon, voilà. Donc je note que t'as quand même regardé Canaillou. Bravo, c'est du propre.
J'ai surtout pris le temps de regarder à Nice, hein, mais avant, une fois arrivé.
Oui, bah oui. Bon alors, j'en déduis à ta sieste de l'après-midi que t'as pas très bien, tu récup, t'es encore en phase de récup?
Ah ouais, bah les phases de récup sur les longues, pour la longue distance, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais après là, c'est parce que là j'ai le planning de travail qui est allégé, donc ouais. J'en profite, je me laisse aller. J'ai envie de faire une sieste, bah je fais une sieste tout simplement quoi.
Superbe. Est-ce que tu te reverrais prendre le départ, par exemple, de la French Divide, samedi?
Comme Sofiane, là?
Ouais.
Ah non, moi, c'est éventuellement, mais moi, je trouve que Sofiane, il pousse trop, quoi. Ça fait beaucoup de courses, que là, il a fait la Supix, et avant, il a fait la Hope 1000. Moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup
Surtout avec cette chaleur.
Bah ouais en plus donc. Je sais que Sofiane il le dit publiquement hein, quand il participe à une course il y va pour gagner. Hein. En fin de compte moi je pense que c'est un peu justement contre-productif que de participer autant de courses quoi. Tu peux pas être en forme pour gagner. En participant à toutes les courses que tu vois, quoi. Donc, au final, par exemple, s'il avait pas fait la, enfin, s'il avait, si, enfin, c'est un peu bête, enfin, par rapport à la Hope 1000, si elle était plus éloignée, bah, il aurait peut-être, ou s'il avait pas fait la Supix, il serait peut-être en meilleure forme pour la French Divide, ou là, le fait d'avoir fait la Supix, pour la French Divide, ça le mettra pas en condition de, peut-être pas forcément pour gagner. Après, je connais pas le plateau des participants, mais si c'est pour participer et ne n'être qu'à 80%, je trouve ça un peu dommage, quoi.
Bah puis j'ai été étonné. Après, il est libre, hein, et évidemment, bien entendu. Et à la limite, s'il peut, il a raison. Mais entre la récup, le changement de vélo et également le changement de coup de pédale, parce que là, il va passer d'un route carbone à en plus un rigide tout terrain, en 2 semaines, 10 jours, ça fait beaucoup, je trouve. Après,
ouais,
il y a la chaleur.
Sofiane, c'est un mec, qui est polyvalent. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se limitait à un seul type de vélo, tu vois. Il est coursier à vélo comme moi, donc il faisait beaucoup de routes. Après, sa passion était par rapport aux courses de longue distance, était beaucoup plus dirigée vers le VTT. Donc sa pratique était faisait qu'en tout, je pense, sa pratique est quand même assez équilibrée. Et il est à l'aise aussi bien sur un type de vélo qu'un autre, quoi. Et je pense que ça c'est une grande force de Sofiane, et c'est ce qui lui permet de sauter de la Hope 1000 à la Supix, puis retourner à la French Divide. Donc,
Écoute,
pour ça, je me fais pas de soucis.
L'avenir nous le dira. Quant à toi, comment s'est passée cette épreuve? Mal, a priori, mais plus en détail. Comment vont tes fesses?
Ouais, ça va mieux.
Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec j'ai le cul poncé?
Non, mais c'est horrible. C'est... Non, dans l'ensemble, ma course s'est très bien passée, sauf qu'à mon habitude, c'est toujours dans les derniers kilomètres, dans la dernière journée ou l'avant-dernière journée, que il commence à m'arriver des pépins sérieux qui me ralentissent et qui me pénalisent, quoi. Là, en tout cas, pour mon fessier, effectivement, fessier, c'est toujours une grande question. Et voilà, ça va mieux, mais je suis étonné, puisque lorsque j'ai commencé la course, j'avais vraiment une très bonne position, j'avais vraiment aucune douleur, etc. Et c'est lorsque j'ai abordé le premier checkpoint, donc qui est le col du Grossglockner là, c'est ce col là qui à partir de ce moment-là que que ça commençait à chauffer pour mes fesses, quoi, littéralement. Donc je pense qu'en fait par exemple si c'est pas une question de position, mais je pense que si j'avais eu une cassette avec plus de développement, parce que là je suis sur une cassette 11-32 Et si j'avais eu la possibilité de mouliner beaucoup plus plutôt que de donner des coups de pédale en force, j'aurais mon fessier qui serait beaucoup, qui tiendrait une meilleure position sur sa selle. Voilà, et en fin de compte, je me serais pas abîmé le fessier sur le gros Glockner. Tous les autres cols, c'est un peu la même chose. Mais je pense que voilà, je pense qu'avec un meilleur développement, vraiment adapté pour vraiment la haute montagne, où il faut vraiment, je pense que je commence à, parce que j'arrive à grimper le gros Glockner en 11.32, c'est pas un problème. Mais je pense que dans l'idée de préserver mon corps aussi bien en termes d'énergie que de que mon fessier, je pense qu'il faut que je cherche, faut que je me force à aller sur des faut que je me force à aller sur des cassettes plus grandes comme 11.36 voire maintenant là les cassettes qui vont 42 ou même jusqu'à 50, etc., de manière à avoir une position plus stable en toutes circonstances, quoi.
Oui, parce que c'est ce que tu disais, tu t'arrêtais pas, tu disais à force de faire des allers-retours sur la selle et à tirer sur le guidon, ça indiquait que tu emmenais gros et que tu forçais vraiment trop, alors que, comme tu dis, avec une position plus souple, plus souple, tu te serais préservé les jambes, les articulations, les bras, les trapèzes.
Bon, là en soi les jambes elles ont pas été de soucis, mais voilà, c'est le fait de quand tu es assis sur la selle et que tu es obligé de quand tu pousses sur ta pédale, ta pédale elle descend, mais aussi ton corps a une réaction opposée qui fait que ta position sur la selle elle est à chaque coup de pédale, elle oscille d'avant en arrière sur la selle, et c'est comme tu prends une éponge et tu fais ça sur ta peau et tu vois ce que ça donne, quoi. Donc
Scotch Brite.
Voilà, c'est ça. Une éponge Pontex, tu vois.
Ou alors, tu gardes ces braquets-là, mais tu fais toute ta préparation avec des Scotch Brite dans le cuissard. Et pour la course, tu les enlèves.
Il faut y aller avec la corne.
Après, tu laisses cicatriser ça pendant 2 semaines, t'as 4 cm de corne sur le cul.
Ah ouais, mais là, c'est un peu extrême, là, quand même, comme entraînement.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Je vais y réfléchir.
Je me rends compte que c'est pas qu'une histoire de position, le mal de fesse aussi. Enfin, pour quand tu t'es amené à grimper, etc., c'est également en fonction de ton braquet, de ta manière de pédaler, et comment tu montes un col, quoi.
J'ai deux questions.
Ouais.
Avant de les oublier, je vais te les donner toutes les deux. Est-ce que, histoire de parler très technique et intime, est-ce que, parce que c'est aussi une question de poils, est-ce que tu rases, est-ce que tu mettais de la crème? Et deuxième question, est-ce que malgré toutes ces années d'expérience et toutes ces transcontinentales, tu n'as pas acquis l'expérience de la haute montagne malgré toutes ces expériences?
Alors oui, moi je rase. Je rase pas juste avant la course. Je rase un peu avant, environ 2 semaines avant, pour laisser un peu de repousse, etc., pour éviter les problèmes de petits boutons, etc. Après, je ne mets pas de crème parce que je trouve que après en fait la crème à force de la crème quand tu pars pour une sortie une hebdo quotidienne ou un truc comme ça, ta crème ton cuissard à la fin tu vas le nettoyer, etc., mais quand t'es en longue distance et que t'as pas forcément les endroits, enfin l'infrastructure, c'est-à-dire trouver un endroit pour te foutre à poil littéralement et rincer ton cuissard, etc., remettre de la crème. Je trouve que la crème en fait elle a un effet plutôt négatif. Après ça devient un peu une sorte de mélanger avec la sueur, etc., ça devient un peu une pâte un peu abrasive, quoi. Donc c'est pas
après un certain temps ça devient contre-productif.
Voilà, c'est pas foufou comme solution. Et effectivement après au fil c'est vrai que c'est dur à accepter, mais je pense que depuis le temps que je fais de la longue distance, j'aurais dû être censé avoir trouvé la solution ultime pour mon fessier. Et ce n'est toujours pas le cas, donc j'ai toujours plus ou moins des difficultés, etc., à supporter les longues heures sur la selle. Et maintenant je repars encore une nouvelle fois à zéro, où il faut que je retrouve Faut que je trouve une solution qui aille bien également. C'est aussi, j'ai remarqué, en tout cas pour cette occasion-là, là, pour la suplex, j'ai un souci au niveau de mon cuissard. Il y a une couture, donc tu vois, il y a la peau et qui protège mes fesses, mais après beaucoup plus haut, on va dire au niveau de, beaucoup plus haut dans l'arrêt des fesses, il y avait donc là où t'as plus la peau qui te protège, en fait moi j'avais donc sur mon cuissard, il y a une couture qui est pile à cet endroit-là, et en fait elle frottait sur le elle frottait un peu au milieu de ma en haut de l'arrêt des fesses, quoi, tu vois. Ah, c'est ouais. Ça. Et j'avais jamais fait attention à cette couture-là. Alors pourtant, c'est un cuissard à sos que j'utilise depuis 3-4 ans maintenant, et c'est la première fois que je me rends compte que ça me fait ça, quoi. Et bah voilà. Maintenant, je pense qu'il faut que je change également de cuissard, que je trouve un cuissard avec un minimum de couture et des coutures qui soient positionnées pas aux endroits sensibles, quoi. Donc ouais. Donc voilà, c'est une petite information qu'il me faut une course complète pour me rendre compte que bah, le cuissard que j'avais, tout simplement, était peut-être pas le mieux adapté, quoi.
Quand tu dis à la fin, bon, bah voilà, c'est encore un fiasco, j'ai fait n'importe quoi, je suis dégoûté, et bien ouais. tu conclus par un, bon, je fais huitième, vous étiez 130, je crois, au départ. Et puis ça fait une moyenne de 430 km par jour. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un fiasco ? Est-ce
non,
que c'était la fatigue ?
C'est
pas la fatigue.
Les 430, ouais, je crois que je suis à 430, 435 km par jour, ce qui est quand même ma meilleure performance sur ce type de course, puisqu'avant celle-là, je crois que j'étais à 390 km par jour. Et sachant qu'en plus, là, c'est de la montagne. Mmh. Après, je me pose la question, c'est est-ce que le fait que ce soit de la montagne m'ait permis de faire plus de kilomètres, puisque donc t'as beaucoup plus de périodes en descente, ce genre de choses. Donc, bon, ça, les raisons, j'en suis pas encore certain. Mais voilà, donc je me dis qu'effectivement, même si je fais huitième, la petite déception, c'est que je pense que j'avais le niveau de faire dans le top 5, en fait. Ouais. J'avais le niveau d'entrer dans le top 5 et malheureusement, pour différentes péripéties qui me sont arrivées sur la course, bon, bah, je me retrouve à tomber au moins sixième et dans les dernières heures, dans les 3-4 dernières heures, je me retrouve à perdre encore 2 places supplémentaires. Donc tu vois, c'est plus ça la déception. Mais après, au niveau de la performance personnelle, je suis très content et je me dis que ça m'ouvre peut-être des possibilités plus tard pour faire des nouveaux parcours, parce que par exemple sur des courses, si par exemple on dit que je me réaligne sur une transcontinentale, moi je pensais toujours en fait que j'étais quelqu'un plutôt à rouler sur le plat, etc., pas bon grimpeur. Et en fin de compte, quand je vois que sur une course de montagne comme la Supix, j'arrive à faire 430 par jour, je me dis qu'en fait plus tard pour mes prochaines courses, il faudra peut-être que j'oriente mes parcours plus vers la montagne plutôt que de faire du détour sur le plat, quoi. Mmh.
Je sais pas quoi dire là.
Il y avait une autre partie à la question.
Non. Bah non, parce qu'on a parlé de tes poils de cul, on a parlé de la crème, on a parlé de ton expérience à acquérir au fil des années. Donc ouais. Non, c'est bon, on est au complet. Et puis ben là, on vient de parler de ta de ton ressenti sur la performance. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures, parce que je sais pas, je pense que tu l'as vu et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est que la couverture de l'épisode de la semaine dernière de ton carnet audio, j'ai fait une capture d'écran de ton truc Facebook où tu mets mais c'est quoi le bordel avec la trace.
Ouais,
et j'ai trouvé ça très drôle parce que ça, j'ai trouvé que ça résumait parfaitement ton état d'esprit à ce moment-là, si on peut dire.
Bah ouais, c'était un peu le bordel. Essayer de comprendre ce qui allait pas, etc.
Et c'est quoi cette histoire de boucle ? J'ai pas très bien compris.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi déjà, je me suis inscrit très tard dans la course. Mmh. Pour la course, lorsque j'ai appris que la Silk Road Mountain Race était annulée, donc c'est-à-dire aux alentours du du 15 juillet. Donc, tu vois, la Srupix, elle est lancée même pas deux semaines après, quoi. Je me suis inscrit assez tard. Donc, j'ai chopé les traces GPS des parcours obligatoires. Et il s'avère qu'en fait, très rapidement, juste après que je les ai... que je les ai chopés, moi les traces, elles ont été modifiées pour ajouter un peu de difficulté, pour ajouter des trucs un peu sympas, etc. Sur le parcours final qui dure quand même 550 km, il y a un moment où il y avait un parcours avec une petite boucle à faire, un truc un peu visuel, c'est-à-dire assez joli à voir, etc., et qui était indiqué sur le tracker, et moi je l'avais pas sur mon GPS, donc ça a commencé un peu à merder à ce moment-là. Donc moi, cette boucle-là, je l'ai pas faite, et j'ai continué à tracer, et on commence à m'envoyer des messages, ouais, t'as pas fait la boucle, etc., et tout, et je comprenais pas trop pourquoi, en fait, moi j'avais pas fait cette boucle-là. Mmh. Et plus loin sur la trace, à un moment, j'arrive sur les, on va dire, c'est sur la dernière portion quasiment. Donc, on se laisse descendre quasiment jusqu'à Nice, donc dans les, on va dire, 50 derniers kilomètres. Où là, complètement, où je m'écarte de la trace et pendant 10 bandes, quoi. Alors que moi, j'étais persuadé d'être sur la bonne trace, et c'est après, plus tard, que j'apprends qu'en fait, il y avait une deuxième version de. Donc du parcours final qui avait rajouté donc toutes ces choses là et qui faisait que une bonne partie du parcours changeait, enfin surtout sur les 50-70 derniers kilomètres. Et le temps que je m'en rende compte, j'avais fait déjà 10 kilomètres dans le vide, quoi. Donc il a fallu que je refasse demi-tour, que je me refasse les 10 bornes juste pour revenir dans le bon chemin, quoi.
Ouais.
Donc c'est un truc qui m'a un peu énervé de me taper une erreur de trace GPS, puisque normalement, enfin, que tu te trompes sur ta trace GPS parce que tu l'as mal planifiée, parce que voilà, tu n'avais pas vu qu'une route était interdite au vélo, ce genre de choses, un tunnel ou je sais pas, un chemin de gravier qui n'était pas prévu, tu vois, ça c'est une chose. Mais se planter sur une partie du parcours qui est donnée par l'organisation, là ça me fout les boules, quoi. Donc d'autant plus que ça pardonne pas, parce que tous les autres qui ont la bonne, ils tracent tout droit, il y a pas d'erreur, et voilà. Et donc chaque erreur coûte encore plus de temps, quoi.
Ça veut dire que t'étais inscrit à la Silk Road?
J'étais inscrit à la Silk Road, ouais.
Ouais.
J'étais inscrit à la Silk Road. Nelson a tenté jusqu'au dernier moment de faire en sorte que la course ait lieu, en espérant que les choses s'améliorent, etc. Tout en donnant la possibilité aux participants qui savaient d'avance qu'ils pourraient ne pas participer, de pouvoir se rétracter et être remboursés. Malheureusement, au dernier moment, les conditions par rapport au Covid-19 au Kyrgyzstan, se sont aggravés. De ce que je sais, en fait, ils ont fait un confinement à peu près en même temps que nous, mais le Kyrgyzstan n'était pas spécialement concerné encore à ce moment-là. Et c'est qu'après, lorsqu'ils sont sortis de confinement, que vraiment eux, ils ont commencé à avoir des arrivées d'étrangers atteints du Covid, etc., qui ont fait que c'est qu'à partir de ce moment-là que les choses ont commencé sérieusement pour eux. Et beaucoup de cas, etc. On entend parler de beaucoup de personnes qui se meurent à la maison, puisqu'il y a très peu de lits de réanimation au Kyrgyzstan. Ce qui fait que l'État se retrouve en plus pris dans un étau, puisque dû au premier confinement, économiquement, le pays ne va pas très bien. Ils peuvent pas se permettre d'en faire un deuxième confinement, mais je crois qu'ils l'ont quand même fait, de souvenir. Donc voilà, c'est assez une situation très compliquée pour le Kyrgyzstan, et c'est clairement pas le moment finalement donc pour faire une course là-bas, quoi.
C'est bien que c'est plutôt courageux de la part de Nelson de rembourser les participants.
Ouais, je sais que c'est pas le cas pour toutes les structures, hein. Après, il y a différentes modalités différentes modalités de remboursement, 50% ou je sais pas quoi, ou à complet. Tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'a pas forcément la capacité financière de faire un remboursement, mais bon, voilà, je pense que tous ceux qui organisent une course actuellement font ce qu'ils peuvent pour essayer de contenter un maximum de monde. Je sais que par exemple Chilkoot, je crois qu'ils ont reporté la BTR, la TCR, ils ont complètement annulé. Enfin voilà, c'est chacun, enfin chaque organisateur essaie de trouver la meilleure solution. Je pense pas qu'aujourd'hui il y ait des organisateurs dans la discipline qui peuvent se permettre de entre guillemets de mettre un plan à ses participants, hein, puisque la communauté est assez petite, ça parle très vite, donc le but c'est de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et pas juste d'être une machine à fric et de dire merde aux participants, bon ben voilà, tant pis pour vous, quoi. Donc voilà.
Est-ce que j'ai bien compris où au début de l'épreuve tu te nourrissais de petits oursons, c'est ça?
Là, ouais, des gummy bears, des petits oursons Haribo, tu vois. Donc, je mangeais pas que ça. Hein, mais,
ah bah oui, parce que quand tu dis kebab petit ourson,
Mais c'est vrai que pendant, quand même, pendant peut-être un jour ou deux, quand t'es vraiment, on essayait, parce que nous, on était quelque peu quand même pressés par le temps, puis, enfin pressés par la météo surtout, puisque lorsqu'on est parti, la météo était annoncée vraiment, vraiment dégueulasse, hein, vraiment horrible, avec des tranches de 3 heures, avec plus de 15 mm de colonne d'eau, etc., en pluie. Vraiment des trucs vraiment horribles. Donc, on avait, avec les autres participants, je pense que, en tout cas avec les Français, on avait plus ou moins vu qu'il y avait quelques fenêtres de tir pour essayer d'esquiver la pluie, etc. Il fallait vraiment pas traîner. Donc, tout du moins, en tout cas, atteindre... le Grossglockner et derrière l'Italie, le côté Bolzano, etc., le plus rapidement possible pour éviter les premiers épisodes orageux. Et ça a plutôt bien marché qu'on fasse ça, puisque derrière, il y en a beaucoup qui ont commencé à prendre la pluie. Nous, on l'a vraiment bien esquivé. Mmh. Mais pour ça, bah, il faut faire quelques sacrifices. Tu manges, t'as pas vraiment le temps de manger grand-chose, etc. Et mon premier repas, ouais, je le fais qu'à la fin de la, je crois, de la deuxième journée, si je me trompe pas, où je m'arrête dans un kebab, donc du côté de l'Italie, si je me trompe pas, où je prends le temps de prendre un petit kebab et de manger autre chose que des sneakers ou des petits oursons, ce genre de choses, quoi. Mmh.
Je reviens sur ton volume quotidien, donc en une moyenne de 432, ça fait combien d'heures de sel par jour?
Attends, je vais te calculer un peu un truc parce que je crois que j'ai roulé. Alors attends, vite fait. Alors je t'improvise un truc là. Je cherche ma trace Komoot. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai roulé à 16,6 km/h de moyenne. Non, ça peut pas être ça. Il y a un truc qui cloche. Alors, c'est un peu bizarre. Bon, tant pis, on va faire sans les chiffres. En gros, je suis à peu près sur la selle, à peu près là, sur la Supix. J'ai réussi à bien me débrouiller. Je pense que je fais à peu près 19-20 heures sur la selle par jour.
Quand tu te réveilles après ton petit dodo, donc très court le dodo, hein, ouais. D'ailleurs, tu faisais plutôt hôtel ou fossé?
Alors pour le coup, j'avais un peu d'économie, j'avais fait un peu d'économie justement en prévision d'une course. C'était pas la Supix prévue initialement, mais je me suis dit là, bon voilà, j'ai un peu d'argent, j'ai l'occasion de faire une course qui va durer que 5 jours. Je connais un peu bien les Alpes, etc. Enfin, un peu bien. Je commence à prendre mes repères, en tout cas, et je sais par expérience qu'il y aura possibilité de trouver assez facilement un hôtel. Donc là, je me suis dit, habituellement, je suis plutôt bivy, mais là, je suis parti sans rien, sans bivy, sans sac de couchage. Juste pris une couverture de survie au cas où il y avait vraiment un gros pépin. Mais je suis parti au début dans l'idée de faire que des hôtels. Et sur 4 nuits, je fais 4 nuits, j'en fais 3 en hôtel et une que je fais dehors dans un parc que j'avais pas spécialement prévu de faire. J'avais prévu de rouler toute la nuit et j'ai dû m'arrêter au bout d'un moment dans un parc. Il faisait pas froid, donc j'ai pu me permettre de m'arrêter dans un parc. Mais sinon, je visais les hôtels et j'ai fait que des hôtels.
Ouais. Quand tu te remets en route, ou même quand tu te réveilles, quelles sont les sensations après 2-3 jours à rouler 19-20 heures par jour? Comment on redémarre? Comment on remet la machine en route?
Ah, ça se fait plutôt de manière... ça se fait machinalement, c'est-à-dire que... tu sais que t'es en course, mentalement t'es toujours dans la course, donc c'est un peu comme si tu te levais de table, tu te lèves, tu remontes sur ton vélo et t'as pas d'a priori, t'as pas spécialement tes sensations de fatigue. Bon, surtout que là en course, la course était plutôt courte, quoi. C'est pas comme quand t'as déjà une semaine de course dans les jambes et que tu te dis bon bah j'ai encore 3-4 jours à tirer sur le vélo. Là, au bout de 2 jours, la fatigue, tu la supportes encore. 3-4 jours, ça va encore, quoi. Donc là, tu remontes sur le vélo sans trop rechigner, sans trop traîner les pieds. Donc là, pas trop de difficultés.
Ok. Tu fais quoi en arrivant à l'hôtel? Le premier truc que tu fais, tu files au lit, tu prends une douche, Ouais. Tu fais des étirements,
Ouais, c'est ça.
Tu traces le cul, tu fais quoi?
Non, c'est prendre une douche, quoi. Une fois que je suis dans la chambre, je me fous à poil, je nettoie le cuissard si besoin, je prends une douche et ensuite direct, je me faxe dans le lit là et c'est parti pour dormir, quoi. Là, il y a pas, j'essaie d'éviter de perdre du temps. Avant, je passais beaucoup de temps, il y a quelques années. Je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Je sais que ça m'aurait pris facile une demi-heure de mon temps, etc. Répondre à des messages et tout, et compagnie. Et là, en fait, le téléphone, éventuellement, je regarde s'il y a des messages importants par rapport au travail qui m'obligerait éventuellement à m'arrêter de suite ou par rapport à la famille. Mais sinon, voilà, je regarde ça, je pose le téléphone, je retire le cuissard, je me prends la douche et voire même je lave le cuissard en même temps que je prends la douche, tu vois. Donc et puis après direction dans le lit, quoi. Maintenant c'est vraiment beaucoup plus optimisé que mes premières années, quoi.
Ouais. Tu recharges un petit peu aussi, si j'ai bien compris. Tu recharges téléphone, etc.
Ouais, effectivement. Donc là après, enfin mon équipement est assez un peu adapté. Maintenant que j'utilise le moyeu dynamo, il y a beaucoup moins de choses à recharger, mais toujours une petite batterie externe au cas où qui me sert. Recharger le téléphone également, deux petits trucs qui me sont nécessaires à recharger. Donc chaque nuit, ou même lorsque je fais un arrêt dans un café ou un truc comme ça, si je peux recharger mon téléphone 10 minutes, c'est déjà ça de gagné, quoi.
Oui, j'avais compris. En fait, j'avais eu l'impression que tu n'avais pas de moyeu dynamo, en fait.
Non, en fait, j'ai le moyeu dynamo. Enfin, habituellement, ce que j'ai, c'est le moyeu dynamo avec également là le petit boîtier avec le port USB là pour recharger. Tout objet qui se branche en USB, GPS, téléphone, etc. Sauf que moi, ce petit boîtier-là, je l'ai niqué avant ma dernière transcontinentale. Donc là, je n'ai plus rien pour recharger tout ce qui est en USB. Donc maintenant, je prends avec moi une batterie externe de 10 000 mAh que je recharge lorsque je peux et qui me sert à recharger mon téléphone, et uniquement mon téléphone, puisque maintenant mon GPS, là le GPS que j'utilise actuellement, c'est le Garmin Etrex 30, qui fonctionne sur pile, qui a une autonomie de 2 jours et demi, 3 jours non-stop. Et mes lumières sont, par contre, elles restent branchées directement sur la dynamo.
D'accord. Ouais, je couperai ça. Je couperai. J'ai un coup de fatigue moi ces jours-ci. Oh là là, ça va
trop
pas.
Trop de travail.
Non, bah non, justement, justement. Je préférerais.
T'as pas fait un truc là, GB Duro ou je sais pas quoi là.
Non 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 non, samedi j'ai fait un truc en Lozère.
On m'a parlé d'une course avec les pontes de l'Ultra, etc. Et tout,
ouais.
Sur, sur invitation VIP seulement.
Oui, oui. Oui, bah, c'était une édition zéro pour valider un petit peu le truc. Et effectivement, c'était très, très bien. C'était sur 3 jours de bikepacking à travers la Lozère. Et en discutant un petit peu, enfin en fait, comme je suis un peu idiot, j'avais compris que c'était sur une seule journée. Je m'étais dit, bah banco, tiens, je vais vendre la caravane. Et puis en fait, c'était sur 3 jours. Et bah quand j'ai appris ça, bah j'ai pas changé d'avis. J'ai décidé de le faire sur 3 jours. Mais en fait, il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt. Donc pour faire les 3 traces, il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt que 5 heures du mat avec cette chaleur. Ce qui ouais. fait que l'après-midi, en 34, à 34 degrés, j'ai perdu, j'ai perdu mes jambes en route.
T'as perdu ta dignité sur l'école.
Non, 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 ma dignité de ce côté-là, elle est très bien. Je faisais le même poids, à la fin. C'est pas le problème. J'ai mon cuissard était toujours propre. Mais non non, ça c'est pas le problème, c'est juste que je supporte pas la chaleur. Toi t'as des origines méditerranéennes. Moi c'est nordique.
Ouais, non mais même
moi j'ai du danois donc
même avec mes origines, tu vois, j'ai un peu du mal à supporter la chaleur. Maintenant, j'essaie de la supporter tant bien que mal. Je sais que là en tout cas, tu vois, par exemple sur la course, il y avait un moment on avait tellement bien réussi notre coup avec les Français pour esquiver la pluie, etc. et tout. En fin de compte, on s'est tapé mes 5 jours de cagnard, quoi.
Bah oui.
Et moi, j'ai souffert un moment, donc lorsque je devais aller en direction du deuxième checkpoint, donc j'avais fait la plaine en Italie où il faisait déjà bien chaud, et après derrière, j'ai monté le col du Simplon. Putain, c'est une chaleur horrible, quoi. Non, mais c'était vraiment horrible. En plus, il y avait les travaux et tout. C'était une autoroute, il y avait plein de camtars et tout. C'était bien foufou, quoi. Et donc tous les jours on a pris de la chaleur, etc. Et une fois que j'avais passé le deuxième checkpoint, j'avais prévu en fait de faire vraiment un grand détour pour vraiment faire que du plat en direction la Clément, et ensuite reprendre la Via Rhona le long du Rhône, etc. Redescendre vraiment très bas. Et malheureusement en fait il faisait tellement chaud que quand j'ai vu que du côté de Grenoble plus vers l'est il y avait un peu de pluie, etc. Je me suis dit, vas-y, mais il fait tellement chaud, j'en ai rien à foutre de prendre la pluie. J'ai envie de prendre la pluie même, tu vois, que j'ai détourné ma trace et j'ai complètement changé de parcours pour m'orienter vers les nuages et Grenoble. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai réussi à quand même si j'ai pas pris la pluie du côté de Grenoble, il y avait quand même beaucoup de nuages, ce qui faisait qu'on était beaucoup plus, l'air était beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable à rouler, etc. Et ça m'a un peu réveillé, quoi, plutôt que de me taper encore le soleil, encore une journée de plus, quoi. Donc pour le coup, ce changement de trace, cette improvisation de trace, j'ai plutôt bien réussi et m'a bien réussi, quoi.
De toute façon, les origines, je suis pas complètement certain que, tu vois, j'ai beau avoir des origines nordiques, danoises et tout, c'est pas pour ça que j'aime la neige. Et toi, t'as beau avoir un père tunisien, c'est en vivant à Paris, c'est pas pour ça que t'es super adapté à la chaleur.
Non, mais effectivement, c'est plus, je pense.
Il faudrait vraiment s'y acclimater sur le long terme pour dire.
Ouais,
bon,
c'est l'environnement dans lequel t'as grandi qui te permet de plus ou moins supporter.
J'ai grandi ni à la montagne ni dans la chaleur, donc quand il fait chaud et quand il fait froid, je suis bon à rien. J'ai pris la décision de ne courir que au printemps et à l'automne, parce que définitivement la chaleur c'est pas mon truc.
Ouais.
Et voilà, donc
c'est pour ça qu'il faut faire l'Atlas Mountain Race En février, quoi.
Et ben justement, je voulais t'en reparler, je voulais en parler à Patrick pour savoir l'après là ou à Pierre la température qu'il faisait l'après-midi. Est-ce que c'est supportable pour un nordique comme moi, ou est-ce qu'il vaut mieux rouler carrément franchement la nuit et se reposer l'après-midi?
La nuit il fait quand même bien frais, hein, donc.
Mais ça va, tu vois, justement, je supporte mieux.
Mais effectivement, c'est une possibilité. Après, il faut être capable de dormir la nuit, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, quoi.
Du coup, l'après-midi faisait combien à peu près?
L'après-midi, je pense, il faisait autour des 30 degrés. Hein. Ouais, après, ouais. ça dépendait des endroits, mais. Et de l'altitude à laquelle t'étais, mais effectivement, il y avait des endroits où on faisait quelque chose comme 30 degrés. Ouais.
Bon, on va voir ça. On va y réfléchir. C'est pas gagné encore, cette affaire. Ouais. Question bête, parce que tu vois, tout à l'heure, bon, on en parlait à la maison, et je disais à ma femme, à Bérangère, t'as les mecs samedi, ils partent pour la French Divide, minimum de 10 jours, 15 jours. Toi, t'as une fille, t'as une femme ou une compagne, je ne sais pas. Ouais. Comment tu digères même l'éloignement, l'absence de tes proches, de ta fille? Quand t'as un coup de moins bien, à quoi tu te raccroches quand t'as un coup de moins bien?
Alors, c'est pas une fille, c'est un fils. Mais
Ah bon?
Ouais. Il a les cheveux très longs, mais.
Contre, il a les yeux, mais quasiment plus bleus que les miens. Il est super beau.
Ouais. Et on lui commande beaucoup ses yeux et ses cheveux.
Ouais. Il est très
beau. Et donc, l'éloignement, c'est un peu propre à chacun, je pense. C'est vraiment comment vous vivez dans votre couple, etc. Si vous êtes, couple fusionnel ou pas, etc. Et moi, avec ma copine, on est très proches, hein, on s'aime, hein, mais on n'est pas non plus dans l'amour fusionnel. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que l'un ou l'autre fait toutes les 5 minutes et que ça, ce genre de choses, quoi. Et en fait, je pense que déjà ça fait que lorsque t'es amené à t'éloigner quelques jours de ta famille. Fait que tu ressens déjà beaucoup moins le manque de leur présence, quoi. Après, je sais que j'ai besoin d'être un peu dans ma bulle et de manière à pouvoir vraiment me concentrer sur un peu la performance que je fais, etc. Et j'aime bien que ma copine me laisse un peu tranquille, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi, en fait, l'idée.
Tu m'envoies un SMS quand t'es au checkpoint.
Ouais, non, mais après ma copine suit ma copine et mon fils suivent énormément ce que je fais via le tracker, etc.
Tant qu'ils reçoivent des
notifications via les trackers, via les Instagram et compagnie, ils se font pas de mourons, quoi. Donc c'est ça, quoi.
Nous, c'est pareil. On a établi un code depuis l'année dernière. C'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et j'appelle de temps en temps histoire de dire que ça va. Mais si t'entends pas parler de moi ou que t'as pas de nouvelles de la gendarmerie ou des pompiers, c'est que tout va bien. Donc,
voilà, c'est exactement ça, quoi.
Si t'appelles et que le téléphone est coupé, ouais, c'est normal.
Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. C'est comme ça que tu peux voir.
Je suis à un endroit sympa, il y a un paysage, ça te plairait. J'ai vu samedi, j'ai vu 3 chevreuils, un renard magnifique, c'était complètement dingue. Ouais. Et un chevreuil qui, quand il m'a vu, il a fait demi-tour, il a fait un bond de 2 mètres par-dessus une barrière avec une fluidité, une aisance, limite un petit peu suspension en haut, tu vois. Genre Michael Jordan en plein dunk, petite suspension et bam, reparti en courant, c'était super beau.
C'est ta manière de, c'est la manière dont chacun que de vivre son couple, quoi. Donc effectivement, ceux qui sont fusionnels et qui ont besoin de communiquer toutes les 5 minutes, je leur conseille pas l'éloignement d'une longue distance, quoi.
C'est plus par rapport aux enfants, tu vois. Au début, j'avais aucun problème. J'avais aucun problème à partir et plus ça va. Alors déjà, quand j'avais pas d'enfants, j'avais aucun problème à voir des pays, à aller dans des pays et avoir des enfants.
Ouais.
Bah, tu vois, j'ai fait plein de pays sordides. Bah, les enfants, ils sont pas tous de bonne humeur. Hein. Ils sont pas tous joyeux. Ouais. Ils ont pas tous le sourire. Et maintenant que j'en ai, j'ai plus envie de voir ça. Donc c'est ça un petit peu aussi qui me... pas pour le vélo en France, mais pour repartir à l'étranger dans certains pays, c'est ça qui me bloque maintenant, c'est que j'ai plus envie de voir des enfants tristes qui jouent sur une montagne d'ordures. J'ai plus envie de voir ça.
Ouais, c'est vrai que
c'est fini.
C'est vrai que c'est assez difficile. C'est quelque chose qu'en fait qu'on sur l'AMR on a beaucoup vu et ça a également un peu fait débat. Puisque beaucoup d'enfants en fait demandaient donne-moi l'argent, tu vois ce genre de choses quoi. Ouais. Et ça fait un peu mal de, enfin c'est dérangeant. Je comprends que ce soit dérangeant quand toi tu passes ici avec ton vélo à, enfin moi pour moi c'était, enfin ça aurait pu être le cas pour n'importe qui, mais tu vois des types qui passent avec leur vélo à 5-10 000 balles etc. Ouais. Et se voir demander de l'argent par des gamins. Et puis s'il refusait, alors après ça c'était le revers de la médaille, c'est aussi que voilà, si tu leur donnais rien du tout, parfois certains se sont fait jeter des cailloux quoi, tu vois. Donc c'est un peu triste que les choses se passent comme ça, tu vois. Donc
ouais, c'est difficile.
Mais après ce qu'il faut se dire, c'est que si tu te caches la misère du monde, tu vas pas non plus très loin, donc.
Moi, je l'ai vu de très près et je l'ai vu à de multiples reprises. J'ai juste plus envie de la voir. Ou alors, tout cas, pas maintenant, mais tu vois, c'est pas le moment et l'endroit pour en parler. Quand on se verra, je te raconterai. Mais moi, ça va, j'ai ma dose. Et tu vois, il y a juste la seule anecdote, c'est que quand on arrive dans un endroit, on peut avoir tous nos préjugés, mais ça tient pas longtemps. Des fois, il y a 2 ans au Brésil, je filmais un truc, j'étais en reportage. Et les gars avec qui j'étais me disent « Ah, regarde le point de vue, c'est vachement beau, tu devrais faire un plan au drone, je regarde. » Effectivement, c'était pas mal. Et quand on passe sur la route à 2 doigts de s'arrêter, devant nous, il y avait une petite fille, 2 petites filles qui jouaient dans un fossé. Et je me suis dit « Non, je peux pas, je sortirai pas mon drone super cher à cet endroit. » devant les petites filles qu'on n'a peut-être jamais vues et que ça va être l'attraction. Et non, je le sens pas. Je me barre.
Ouais.
On avance et je ferai ça plus tard. Je remonte dans le 4x4 avec les mecs. On fait 200 mètres. Et en fait, il y avait la grande sœur des 2 filles qui était dans le fossé, elle aussi, mais sur son ordinateur, sur Facebook, avec le téléphone à côté en partage de connexion. Et je me suis dit, mais merde. Des fois, je vais pas ressortir tout ce qu'on entend actuellement, toute cette mauvaise conscience d'Européens, machin, mais on s'imagine des choses des fois et en fait, ils sont pas si malheureux. Et puis les enfants, ça reste des enfants, ils sont heureux et ils vivent là où ils vivent, mais ils n'empêche qu'ils sont quand même heureux et c'est des enfants, ils s'amusent avec ce qu'ils ont. Et même au bout de la Palestine, au fin fond de du Liban, c'était des enfants, ils s'amusaient pareil, quoi. Mais c'est juste que quand tu les vois dans les campements à la frontière syrienne, oh, putain, t'as du mal à croire qu'on puisse s'amuser ici, et pourtant ils s'amusaient. Mais moi, je m'amusais pas du tout.
Ouais, c'est dur parfois d'être spectateur. Plus tu sais, enfin. C'est un peu horrible, hein, mais j'ai des idées, mais j'ai pas spécialement envie de les exprimer, en fait.
Non. Bon, voilà, j'ai les larmes aux yeux. C'est super.
Ouais.
C'est super. J'adore ça. Ça me rappelle tous les mauvais souvenirs et tous les trucs que j'essaye désespérément d'oublier. C'est super. Prochaine course, Stéphane. Fais-moi du rêve.
Prochaine course, si possible. L'Atlas Mountain Race l'année prochaine. Donc,
On ira ensemble alors peut-être.
Peut-être effectivement.
J'espère.
Mais par contre, tout ce qui concerne le off-road, je pense que j'attendrai d'être suffisamment bien équipé parce que j'ai pas envie d'y aller avec mon tracteur que j'ai actuellement.
Mais c'est ce que j'allais te poser comme question. Aller faire la Silk Road avec ton Lapierre.
J'aurais investi dans quelque chose d'autre probablement, mais voilà. Là maintenant, j'essaie de mettre un peu de côté de l'argent, de trouver une bonne occasion dans laquelle investir pour pouvoir me faire plaisir et pas juste subir une course que ce soit comme la Silk Road ou l'Atlas Mountain Race quoi. Et on dit souvent ouais ce qui compte c'est les jambes etc. Mais je vous cache pas quand même qu'avoir un bon vélo et même un très bon vélo ça vous aide vraiment, ça vous pousse à grimper des cols à 3000-4000 mètres etc. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger et qu'il faut prendre à la rigolade quoi. Donc là maintenant, jusqu'à maintenant en fait c'était un peu ça hein, c'était que voilà, je prenais la chose peut-être un peu trop à la rigolade et je sous-estimais un peu la difficulté des courses et l'exigence de ces courses-là. Et maintenant, si j'y retourne sur l'Atlas Mountain Race ou la Silk Road Mountain Race, parce que j'en ai encore fini aucune des deux, ce sera vraiment avec un vélo bien travaillé, pensé, optimisé vraiment pour passer ces épreuves-là du mieux possible et puis en mode course, pas juste en mode cyclotourisme.
On l'a vu sur la Hope, j'en ai parlé un petit peu avec Sofiane et avec d'autres après. On constate que sur la Hope, les mecs qui sont devant ont déjà été d'excellents coureurs de cross-country marathon, donc techniquement ça dévalait bien. Et en plus, ils étaient en tout suspendu, donc des XC tout suspendu. Donc dans les descentes, c'est tout droit dans le lard. Alors qu'en rigide,
moi je suis persuadé. Hein, l'avenir, c'est un retour au VTT tout suspendu. Hein. Là, les gens qui partent en gravel, etc. et tout, et qui jugent les gens en VTT. Vous n'allez pas tenir très longtemps face aux mecs qui vont arriver et qui vont débarquer en VTT tout suspendu. Moi, je vous le dis. Hein. Ça, c'est une annonce. Tu peux l'acter. Tu regardes dans 2-3 ans, les tops, les mecs seront en VTT tout suspendu. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Hein.
En tout cas, de ce que j'ai fait samedi, il y a des passages où je me suis dit, tiens, si j'avais le mien, je serais passé plus vite. Je sais pas si je pense que je serais allé un poil moins vite dans les montées et évidemment un peu collé sur les parties très roulantes. Mais par contre, je serais allé infiniment plus vite en descente. Et sur des parcours cassants comme à la Hope, comme à l'Atlas, même en termes de confort et puis en termes de traction, quand ça patine un peu, tu mets les suspensions à mi-course, il y a de la traction. Alors que, en tout rigide, ça patine. Et puis dans les descentes, t'es debout sur les freins. Alors qu'en sous-suspendu, tu peux descendre à bloc, fumer des clopes.
Sur l'Atlas, j'y allais. Hein, rien à foutre que j'avais 140 mm de débattement à l'arrière. Rien à foutre de la pierre au milieu, etc. Moi, tu sais, je voyais les gens faire des zigzags gauche-droite. Moi, j'y allais au bord de la falaise à fond.
C'est dingue.
Pas de temps à perdre. Hein.
Et en plus, t'as un vieux modèle, toi. T'as un vieux suspendu.
Ouais, un vieux suspendu.
Il a 5-6 ans, c'est ça, même plus.
Beaucoup plus que ça. Oh là. Il est de 2008 ou 2009.
C'est la folie.
Donc il avait au moins 10 ans, si ce n'est 12. Même avec mon vieux suspendu, c'est tellement plus agréable de se dire que t'as pas à te crisper. Déjà, pendant les montées, t'es là à tirer sur ton cintre, etc. Et si après, pendant les descentes, t'as même pas l'occasion de te relâcher, etc. Ouais. C'est horrible. Je suis persuadé que l'avenir du gravel, c'est de retourner sur des bases VTT. On va retourner sur des bases cross-country avec des débattements, avec les petits débattements, là, de 60-80, là. Moi, idéalement, ce que j'aimerais me prendre, ce serait un tout suspendu type Specialized Epic avec 80-90 mm de débattement, quoi. Un vélo qui tape un peu en dessous des très légèrement en dessous des 10 kilos. Donc par rapport au gravel tout rigide, etc. Il a pas à rougir. Avec tous les systèmes de blocage des suspensions, avec les commandes, les trucs maintenant, c'est des trucs dignes de la NASA, etc. La télécommande. Au guidon, résultat, tu lâches jamais ton guidon, tu bloques, tu débloques à volonté. Très honnêtement, que maintenant, quand t'es sur le plat, t'es plus collé, t'es dans les montées, t'as la motricité. Dans la descente, t'as tout le confort, le débattement, etc. Moi, je vous le dis, hein, le
tout dépend des parcours. Tout dépend des parcours, vraiment.
Je pense que même sur des parcours roulants, on verra probablement quand même revenir des vélos cross-country semi-rigides beaucoup plus en masse.
Ça dépend. J'adhère totalement à ton analyse. J'adhère relativement bien, mais ça dépend des parcours. Ça dépend des courses. Ça dépend, ça dépend vraiment. Si ça secoue, oui. Mais s'il y a du roulant en grande quantité, en grande proportion, comme me le disait Pierre Arnaud Le Magnan, c'est une question de proportion. S'il y a 60% de roulant et un petit peu de tabassage, vaut mieux prendre un truc qui roule vite avec un gros plateau. Mais s'il y a 60-70% de tabassage, effectivement, de la suspension et du gros pneu.
Mais, ouais.
Là, on arrive à un autre problème, c'est qu'il faut plusieurs vélos. Donc
voilà, c'est ça. Faut plusieurs de tout, quoi. Plusieurs paires de roues, des pneus comme si t'étais Michelin. C'est que maintenant il faut que tu ouvres un bike shop, en fait, c'est ça.
Ouais. Mais la difficulté, elle est là, c'est que trouver le vélo idéal, c'est pas compliqué, mais c'est que il faut le trouver, c'est pas difficile, mais après faut l'acheter, en fait. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais c'est sûr que le tout suspendu, moi, depuis que j'y ai goûté, là je suis en admiration, et même si j'adore le gravel vraiment, le tout suspendu, c'est puis ça rend tellement dingue quand je bloque les suspensions, mais ça rend de folie, c'est génial.
Ouais. Ouais.
C'est complètement dingue. En relance, c'est la folie pure.
Vous entendez ça, les gens, notez bien.
Ouais.
Le retour du tout suspendu dans les tops. D'ailleurs, sur la Hop 1000, c'est un tout suspendu qui gagne.
Ouais.
Je dis ça, je dis rien.
Ouais, après, tu as noté que le gars aussi, c'est un excellent coureur de XC Marathon. Donc, il a aussi pris le vélo qu'il maîtrise. Et on en revient à cet adage, c'est quoi le vélo le plus adapté? C'est celui que tu as, et éventuellement, c'est celui que tu connais sur... Celui auquel on est adapté, auquel on est habitué.
Exactement. Celui sur lequel on s'est entraîné, sur lequel on s'est préparé, exactement.
Voilà, mais bon. Donc, prochaine épreuve pour toi du caillou. Est-ce que tu...
Après, il y aura peut-être d'autres courses avant. Je sais qu'on me propose de participer à des trucs en septembre, etc. Mais ce sera en fonction du...
Du travail.
En fonction du travail, ouais.
Va peut-être falloir que ça revienne un peu, cette affaire, hein, parce que le coup du virus, ça va bien, c'était sympa au mois d'avril,
parce qu'on va pas manger des pâtes toute l'année, et que il faut bien trouver de l'argent pour acheter des vélos.
Oui. Bon, t'as un petit peu de partenariat quand même, d'après ce que j'ai vu.
En fait, pas tant que ça, hein, maintenant. Ouais. Actuellement, je suis surtout soutenu par le magasin France Coupe sur Paris.
Ouais.
Petit instant publicité.
Mais ça fait partie du game.
Mais donc voilà, c'est eux qui me soutiennent depuis quasiment ma première transcontinentale, qui me prêtent un vélo à l'année, qui m'aident à le maintenir en bon état, etc., qui me permet de m'entraîner, etc. Donc c'est eux qui me soutiennent, et puis après. De temps en temps, j'ai un petit partenariat à droite à gauche, mais c'est pas ça qui me permet vraiment d'acheter un nouveau vélo, quoi.
Puisque t'en as déjà un, c'est plus l'équipement, les freins, les sacoches.
J'en ai un, c'est le Specialized Venge là que le magasin France Coupe me prête.
Ouais.
Mais après, par exemple, si je veux faire du VTT, j'ai pas de vélo, donc il faut.
Ouais, ils vont pas te trouver un Epic en plus.
Ouais. Après, c'est si jamais le chef nous entend, je suis toujours ouvert aux propositions d'Epic, hein, mais actuellement, pour en avoir parlé il y a quelques temps, c'était pas. Ça rentrait pas dans la politique dans la politique du magasin, donc ce que je comprends tout à fait aussi. Donc,
oui, c'est difficile, hein. Ils ont vécu des temps difficiles, donc c'est pas le moment de filer des vélos. Hein.
Ouais, non, mais après, plus au-delà de ça, quand je regarde en fait un peu la pratique du VTT, comment elle évolue là depuis 2-3 ans, En fait, ce qui explose énormément, c'est pas tant le VTT en soi, c'est plus le VTT électrique. Mmh. Je sais pas si tu vois maintenant, mais, enfin, que ce soit en ville ou en VTT, l'électrique maintenant s'impose réellement comme vélo à part entière, et voire même comme discipline, puisque maintenant on commence à avoir des courses de VTT électrique. Je sais plus c'était quelle course, une course, un truc style
championnat du monde, tout simplement, l'été dernier au Québec.
Ah ouais, bah voilà, il y avait ça, il y avait également une course dans le sud de la France.
L'Europe d'Azur, il y avait une électrique, je crois, ouais.
Voilà aussi, peut-être t'as aussi un truc style méga-avalanche ou un truc comme ça, qui avait également une épreuve, une épreuve marathon en électrique. Donc littéralement, en fait, maintenant le VTT mécanique, c'est moins le créneau porteur actuellement, c'est beaucoup plus l'électrique. Après, peut-être que plus tard les gens décideront de délaisser leur électrique pour du mécanique, mais ça, je doute que ce soit dans ce sens-là que ça se fasse. Et moi, je pense que ce sera plutôt dans l'autre. On verra beaucoup plus de personnes délaisser leur mécanique pour partir sur de l'électrique, quoi.
Bah, pourquoi pas, après tout, si ça peut mettre plus de monde sur un vélo pour les gens un peu faibles qui reviennent de maladies, d'incidents cardiaques, de surpoids.
Complètement, je suis complètement d'accord que c'est
très, pas que c'est, très bien. Je suis pour.
Je dis absolument pas que l'électrique est une mauvaise chose, bien au contraire. Non. Là, par exemple, là, justement, sur le troisième checkpoint, là, de la Supix, sur la montée du Mont Ventoux, à un moment, je me retrouve à rouler avec trois personnes, dont une dame de 70 ans qui était en électrique, et elle me disait ça faisait quasiment 50 ans que j'avais pas fait de vélo, et me voilà à monter le Mont Ventoux sur un vélo électrique, tu vois. Et je me dis c'est formidable qu'aujourd'hui technologiquement on permette aux gens de pouvoir se lancer dans des activités sportives, physiques et sportives, comme grimper le Mont Ventoux, etc., plutôt que juste de les contenter à faire du vélo, je sais pas, dans la forêt qui est au bout de leur rue ou un truc comme ça, quoi. Donc le Mont Ventoux, c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des grosses guiboles, qui ont 350 de FTP, etc., comme s'ils étaient fou, mais qu'ils allaient gagner une étape du Tour de France. C'est pour tout le monde, et cela, que tu sois en mécanique ou en électrique.
Alors, pour les dames de 60 ans qui montent, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est quand ils descendent, parce que y a eu plein d'accidents. Mais sur le Ventoux électrique ou mécanique, des accidents au Ventoux, il y en a tous les ans. Il y a 3 ans, malheureusement. Moi j'étais en train de faire les cinglés avec mon père. On avait monté les trois monts, on avait fait les trois côtés le même jour, et en descendant, ma mère nous accompagnait en voiture, et sur le troisième passage, on sortait du chalet et elle remontait vers le sommet. Il y a une dame qui s'est emmanchée dans une barrière de glissière avec son électrique, et et elle est morte. Donc moi j'étais au chalet Reynard, j'attendais comme un con, si je puis dire, que mon père finisse sa troisième montée, puis une demi-heure, une heure et demie. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors que j'avais croisé mon père dans la montée, moi je commençais à redescendre, et je lui avais juste filé un coca, et il était à 2 kilomètres du sommet, donc ça avait l'air d'aller. Putain, et à un moment je le vois arriver en vite au niveau du restaurant, il balance son vélo, il court au restaurant, il revient me voir après, il me fait « Oh, il y a une femme qui s'est emmanchée dans une glissière de sécurité, c'est ta mère qui est en train de la secourir avec la couverture et tout, elle a du sang qui sort des oreilles. » Donc, ça sentait pas bien bon, cette affaire. Et,
effectivement.
C'est la seule réserve que j'ai, et l'autre, c'est que j'aimerais bien savoir d'où viennent les batteries, et j'aimerais bien m'assurer que le matériau, le minerai, n'est pas extrait par des enfants au Congo ou
effectivement,
ou
ça c'est le gros point noir. C'est le gros point noir, effectivement. Mais je comprends que les gens soient réfractaires à l'électrique pour ça. Mais bon, après il faut consommer intelligent, il faut consommer responsable, et faire en sorte que si jamais un jour une société est amenée à fabriquer des batteries en exploitant des enfants, etc. Bah, il faut faire en sorte pas que cette société-là ne s'en sorte pas aussi bien que ça, quoi. Donc en boycottant si possible ces produits. Enfin, après, j'ai pas trop d'idées, mais.
Ouais, bah peut aller loin parce que bon, on pourrait boycotter les vélos électriques et leurs batteries, on pourrait boycotter Samsung, Apple, Nike.
Effectivement.
Ça peut aller loin, hein. On peut se retrouver à poil dans la forêt en tongs parce qu'on a boycotté toute l'industrie. Mais bon, si.
Effectivement, c'est vrai que c'est un peu faut sanctionner en tout cas l'exploitation des enfants. Ouais. Et voilà. On parle. C'est moi où j'ai l'impression qu'on va. C'est un podcast qui va être très triste.
Non, il est pas triste, mais bon. Il y a des fois, il faut quand même se poser des questions et réfléchir un peu sur le monde qui nous entoure. Le vélo, c'est bien, mais bon, ça reste que du vélo, hein. On sauve pas, on soigne pas le Covid, on n'arrête pas le sida, on soigne pas la guerre, on n'empêche pas les explosions au Liban. C'est que du vélo, hein, c'est de la. On peut gagner toutes les courses, gagner le Tour de France, faire la transcontinentale aller-retour. Au bout du compte, ça change rien. Il y a que le mec qui gagne qui est content. Le reste, c'est que du pipeau et c'est valable pour tous les autres sports. Ça amène que un moment de joie momentané, mais ça change rien.
Ouais.
Comme la musique, comme tout, ça change rien au monde. Quasiment rien. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit côté hyper optimiste, tu vois. Quand je suis fatigué, je vois le monde en noir. Et ça, c'est cool. Des fois, ça fait du bien. C'est agréable. Bon, dis donc, on va finir sur un truc. Quand est-ce qu'on fait du pignon fixe ensemble? J'ai reçu le mien il y a 2 jours, 3 jours. Je suis allé le chercher. Quand est-ce qu'on va rouler ensemble en fixe? J'ai besoin de conseils.
Pour l'instant, jamais, parce que j'ai plus de pignon fixe, tout simplement.
Mais t'étais vraiment un traître.
En fait, j'ai un pignon fixe, mais c'est celui que j'utilisais sur mon home trainer. Mm. Et à force de transpirer dessus, et ben, en fait, il y a tout un bloc de sel qui s'est formé dans le tube de direction. Résultat, la direction ne tourne plus. En fait, c'est un pignon fixe qui est fait que pour rouler tout droit, en fait, maintenant.
D'accord. Donc, c'est un pignon fixe à direction unilatérale.
Un pignon fixe à direction fixe, tu vois.
Ouais, d'accord. Ah, c'est pratique.
Donc, là, actuellement, je t'avoue que j'ai plus aucun pignon fixe.
Bon.
Malheureusement.
On verra ça plus tard. Je vais te laisser pour ta minute de solitude parce que figure-toi que la dernière a été très très appréciée. Donc, je te laisse y réfléchir un instant, mais je pense que les bruitages sont les bienvenus. T'as vu un mirage par-dessus le ventoux, t'as explosé une jante.
Ah ouais, mais j'avais prévu justement j'avais prévu un petit coup de gueule, en fait.
T'as répété ton sketch, ça y est?
Non, on va dire ça. Non, en fait, j'avais juste prévu un petit coup de gueule parce qu'il y avait un truc au niveau des organisations qui est des courses qui me saoule un peu. Ouais. Et voilà, je voulais juste faire un petit coup de gueule, mais bon, je peux changer, je peux improviser.
Non, tu dis ce que t'as à dire. Qui suis-je pour t'empêcher de t'exprimer quand même?
D'accord.
Quand même,
okay.
Voilà. Et merci.
Bah, je te remercie également.
Et puis, on essaye de se voir à la rentrée très vite, qu'on essaye quand même d'aller manger un truc, parce qu'on se parle beaucoup, on s'écrit beaucoup, mais j'aimerais bien qu'on se voit. Donc,
ça marche.
Voilà. Ok?
Ok.
À très bientôt. Bise.
À bientôt. Bise. Oui, je voulais. Donc, on va le faire en deux temps, d'accord? Ok, les gars. D'abord, le petit coup de gueule, c'est l'obstination des organisateurs à toujours ajouter des petits morceaux sur leur parcours obligatoire, des trucs qui sont vraiment casse-couilles, quoi. Genre, on a grimpé le Grossglockner, donc déjà le col monte à 2000, un truc style 2350, 2400. Et après, tu vois, en haut, t'as encore cette petite merde, tu vois, qui te fait monter tout en haut d'un pic, tu vois. Tu vois, t'as déjà galéré pendant 5 heures à grimper sur la route, etc. Alors, t'as vu à 500 km déjà des deux côtés du col et compagnie. Mais non, l'organisateur, tu vois, il faut encore qu'il te fasse monter encore tout en haut, tu vois. Genre, tu sais, la petite aiguille, tu vois, qui en plus, bien sûr, pour une montée, tu sais, c'est pas sur du bitume, tu vois, c'est encore du pavé de mes couilles, quoi. Donc tu vois, t'es là à grimper, etc. et tout, t'as aucune motricité sur ton vélo de route, sur le pavé. Le truc, il est à 12%. Alors t'es là comme un con, tu grimpes et compagnie pour en fin de compte arriver tout en haut et avoir la même chose que ce que t'avais à 150 mètres de dénivelé plus bas, quoi. Enfin voilà, tu vois, je parle pour l'aspect fixe, mais c'est le cas pour toutes les courses. Les organisateurs se sentent toujours obligés de, oui, on va aller en haut du col, mais on va même faire plus haut que le col, on va prendre tout en haut de l'aiguille, de la pointe, de tout en haut, etc. Mais putain, mais ça sert à rien. Arrêtez. Si vous organisez une course, ne nous obligez pas à taper les 150 mètres de dénivelé en plus, là, pour juste, pour rien, quoi, en fait. Il y a un panneau en haut, ok, c'est bon, on a déjà tapé 2400 mètres, c'est bon, hein. Donc voilà, à chaque fois, quasiment tous les checkpoints, t'as toujours un truc inutile à faire, etc. Après, il y avait un truc avec un barrage, là. Le deuxième checkpoint, le col du Sanetch, quoi. Donc le col du Sanetch, c'est déjà un truc où tu montes déjà 2200 mètres, tu vois. T'es en haut, donc t'es vraiment au plus haut du truc, en plus, tu vois. T'es en haut, t'as la vue sur le barrage, t'as la vue de l'autre côté sur la vallée, etc. C'est cool, ok. Et après, non, c'est... Faire le checkpoint ici, tu vois, ça suffit pas, tu vois. Il faut que tu redescendes, t'sais, en contre, t'sais, de l'autre côté, il faut que tu bascules, il faut que tu descendes encore 150 mètres, tu vois, pour aller à Perpète, je sais pas, il y avait une sorte, il faut que tu tapes encore 10 bornes là, pour rejoindre un petit lac ou je sais pas quoi. Il y avait un petit panneau qui devait faire, je sais pas, un truc style, genre 10 cm sur 15, un truc comme ça, avec écrit col du Sanetch, tu vois. Mais voilà, on a dû taper 10 bornes pour aller chercher ce petit panneau de mes couilles, quoi. Et après, donc derrière, bah, il faut que tu fasses demi-tour. Parce que forcément, le col du Sanetch, c'est que dans un sens, hein. Donc tu fais demi-tour. Il faut que tu retapes les 150 mètres que tu as descendu lorsqu'une fois que tu avais basculé, tu vois. Et ça, c'est casse-couille. Ça sert à rien. Pourquoi vous rajoutez des trucs comme ça? On est arrivé à 2200 mètres. Laissez-nous kiffer à 2200 mètres. Et laissez-nous repartir, quoi. Oh la vache, ça me saoule de ouf, quoi. Donc après, on est reparti. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Le dernier checkpoint, donc le Mont Ventoux. Encore là, c'était ça quand même, ce qu'il a fait, c'était intelligent. Le checkpoint commençait au niveau du chalet. Donc, ce qui faisait qu'en fait, si on montait par saut ou par bédouin, eh ben, en fait, on arrivait donc au niveau du chalet, et il fallait donc éviter de monter à Malocène, parce que si tu montes côté Malocène, tu montes, et ensuite t'es obligé de redescendre, tu vois, jusqu'au chalet pour retaper la montée, tu vois, le truc qui sert encore une fois à rien, quoi. Mais heureusement, le Ventoux est bien fait, il y a trois montées, saut, bédouin, Malocène, et on suffisait de monter soit par saut, soit par bédouin, et on arrivait au chalet au début du checkpoint. Ça, par contre, ça c'était bien fait. Donc ça, mes félicitations au chef. Et oui, donc, pour vous raconter le Ventoux, là, donc, j'étais en train de monter, alors je vous raconte, hein, j'essaie de mettre un peu quelques boutages, mais il n'y aura pas de bruitage, parce qu'il se passe pas grand chose sur le Mont Ventoux quand tu montes à 10h du mat, tu vois, comme t'es tout seul, donc t'es là, t'es tout seul, comme ça, petite danseuse, bon, en plus, non, ça va, ça, on grimpe du côté saut, tu vois, ça roule plutôt vite, comme ça, avec les petites cigales, tu vois, on était plutôt bien comme ça et tout, il faisait frais et tout, ouais. Il y avait des arbres à droite, des arbres à gauche, tu vois, tac, t'éponges ta sueur là, avec ta main et tout, tac, tu grimpes, etc. Hop, j'ai un moment, un petit coup de fatigue, vas-y, tu sais quoi, je vais mettre de la musique et tout, tac, hop, Spotify, tac, on va mettre un podcast là, Spotzel, non, vas-y, on va se faire chier à écouter Spotzel, tac, vas-y, on va se mettre quoi, on va se mettre, comment ça s'appelle là? She's a maniac, maniac on the floor. Et je peux vous dire que j'ai grimpé salt jusqu'en haut, tout en haut du là de jusqu'au chalet et encore après en mettant she's a maniac, maniac on the floor and she's dancing like she's never danced before. Tac et tout, tac, j'arrive au chalet, tac. Et là je me dis vas-y, je vais remplir mes bidons, etc. Je me fais bien arnaquer par ces enfoirés là au chalet là. À base de 3 euros la canette, vas-y mes couilles, que je te fasse raquer jusqu'à la mort là. Putain, quel bon enfoiré. Donc tu vois, t'es bien vénère, t'as bien la rage là. Donc là, t'attaques le dernier morceau, t'es déjà taqué, tu vois. Allez hop, c'est parti, tac, on y va. She's a maniac. Parce que forcément, la musique, je l'ai écoutée au moins, je sais pas, en boucle, peut-être, je sais pas, 20-30 fois, hein, au minimum. Hein. Et que pendant la montée, hein, parce que j'ai encore écouté de l'autre côté. Hein. She's a maniac, maniac. Et là, il y a un mec, je vois, il est en PLS et tout. Et j'arrive à le rattraper et tout. Je fais, hey, ça va et tout, etc. Avec ma musique, She's a maniac, le mec, il doit halluciner et tout. Tac, on roule, etc. Je vois, ça va et tout. On fait, ouais, ouais, et tout. Je souffle, mais ça, je vais le faire, je vais le faire. Genre, je l'encourage, vas-y, tu vas y arriver et tout. Tac, on continue et tout. Et là, il y a un mec, il me double, genre normal, tu vois. Genre, il fait sa petite sortie tempo, tu vois. Tac et tout, il me trace et tout, et moi je fais putain, j'étais un peu dégoûté et tout. Donc vas-y, je lève le pied et tout. Et puis en plus, à ce moment-là, il y a les photographes, tu vois, les mecs là, tu sais que les mecs ils te poursuivent et après ils te filment une carte dans la montée là. Vas-y, à un moment, il y en a un premier et tout. Je fais vas-y, ok, d'accord, il prend ses photos. Et après, il y en a un autre, je me suis dit vas-y, je vais faire photo sponsor. Tac, dans la montée, je remonte le, tu sais, je fais comme les pros, tu vois, je remonte le jersey, zzz, hop, tac et tout. Le mec il est chaud, il est prêt, il se met debout, tu vois, il m'attendait le mec, tu vois. Tac, vas-y, j'y vais à son, tac, tout, avec la musique, je disais, maniac, ouais, photo pour les sponsors, on est chaud, et tout, tac, il dit, ouais, t'es passé à 13h, il me file sa carte, etc., et tout, je suis, yeah, c'est bon, on a la photo pour les sponsors, on réouvre le jersey, parce qu'on est en train de suer comme un porc, et tout, on continue, et tout, et on voit qu'au fur et à mesure, le mec qui nous avait doublé juste avant, là, genre en mode pépère, et tout, on le rattrape, et je lui dis, vas-y, je vais lui fumer de ouf, et tout. Et tac, là, tac, clic, 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 tiens, je passe les vitesses et tout, tiens, je retire des dents et tout. Là, j'ai dit, on y va en force et tout. Fou, 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 fou. En danseuse, on y va, on attaque le truc et tout. Et je rattrape le mec et tout. Et le mec et tout, le mec, il est en sueur, le mec, il a une serpillère et tout. Je dis, ouais, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, t'as l'air bien chaud et tout. Et tu vois, moi, je fais style, genre, je transpire pas, tu vois, genre, j'ai pas tapé 2000 km et tout. Tu vois, il me fait, ouais, c'est ma 4e montée. Ah ouais, quand même. Là, à ce moment-là, je me dis, putain, en fait, le mec, il est en sueur, c'est une serpillère, mais forcément, le mec, il a tapé 4 montées, tu vois. Donc, tu vois, et je lui dis, ah ouais, tout, vous entraînez pour un truc et tout. Et en fait, je crois que le mec s'entraînait pour, justement, là, ce dont on parlait juste avant avec Richard, je crois qu'il s'entraînait pour les cinglés du Mont Ventoux. Donc, voilà, il disait, ouais, là, c'est ma 4e montée, après, je redescends et je vais remonter une dernière fois par, je sais plus, par Bédouin ou un truc comme ça et tout. Je dis, ah ouais, d'accord et tout, ah, t'es chaud et tout. Ouais, putain, c'est bien, c'est cool et tout, ce genre de défi et tout. Moi, ça m'intéresserait et tout. Là, moi, je suis un peu pressé et tout. J'ai fait 2000 km, là, c'est bientôt l'arrivée et tout. Je suis chaud, quoi. Et après, j'ai fait, bon, excuse-moi, mec, mais je vais te mettre une attaque, le prends pas personnellement, tu vois, j'ai envie d'en finir avec la montée. Et là, bam, 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 tac, et tout. Le mec, j'ai déposé les valises et tout, comme ça, ce bas de côté. Je crois que le mec était tellement dégoûté, il a mis le clignotant, s'est garé. Il a été discuté avec le mec qui prenait les photos, il a pris rendez-vous pour un shooting ou je sais pas. Donc tac, moi je continue comme ça et tout. Et après et là il y a un Mirage 2000, mon pote, il est passé au-dessus de nous, genre peut-être, je sais pas, entre lui et moi, il y avait peut-être allé 200 mètres de haut, tu vois. Il est passé en mode Mach 12, tu vois, comme ça. Et après, tiens, donc tu vois, il passe au-dessus et après il replonge dans la vallée. Donc tu vois, nous, comme tu sais, comme t'es sur le Mont Ventoux, tu vois, t'as la vue sur sur la vallée, hein, tout simplement. Et tu vois le mec plonger, tu sais, le mec était à l'envers. Après, tu le vois faire une vrille, etc., style et tout, tu sais, en contrebas et tout. C'était trop stylé et tout. Tout le monde a fait, waouh, c'était quoi? Ah, bravo! Ah, c'était trop bien, tout. Moi, j'étais genre, she's a maniac, maniac, on the floor. She's dancing like she's never danced before. Tac et tout, on grimpe en haut, etc. Putain, c'était. Ça, franchement, c'était trop cool. Quand tu montes, etc., genre, un mec en avion de chasse, là, qui passe au-dessus de toi, je pense que c'était des mecs de la base de Carpentras ou un truc comme ça. Donc, ouais, ça, c'était trop cool et tout. Tac, et j'arrive en haut du Mont Ventoux. Et en fait, j'étais en mode, en fait, mais c'est facile, le Mont Ventoux, tu vois. Et en discutant après la course avec d'autres participants et tout, on s'est dit, mais en fait, le Mont Ventoux, mais c'était trop facile à côté du Grossglockner ou du Sanetsch, etc., et tout. Là, en fait, mon Ventoux, c'est... Enfin, surtout par Salt, hein. J'avais déjà fait Bédouin avant, ça me semblait plus dur que ça. Mais Salt, ça glisse, hein. C'est un petit toboggan à monter, là, tranquille et tout. Même la dernière portion, la chalet jusqu'à la station, là, ça passait nickel. Et après, derrière, mon pote, on attaque la descente de Malocène. Alors là, je peux vous dire, avec tous les autres concurrents avec qui j'ai discuté, on a tous éteint le cerveau. On a commencé, tac, on descend, tac, tu prends de la vitesse, et au bout d'un moment, on passe comme des missiles, tu vois. Ça me fait rire à quel point on a été con. tiens, on y va à bloc et tout. Je me suis mis en position genre de l'œuf et tout, genre froume sur le cadre et tout. La tête derrière, au point, je planquais ma tête derrière mon Garmin, etc. Vraiment en boule comme pas possible, etc. Je regarde le compteur et tout, tac, 60, 70, 80, tu vois. On est là à descendre à bloc et tout. Et je me dis, mais les gens, ils nous regardaient, tu vois. Enfin, ils nous regardaient. Moi, j'étais tout seul à descendre, mais moi, j'ai descendu le truc sur les coups de 13h où t'as encore beaucoup de monde qui sont encore dans la montée, tu vois. Les gens nous regardent descendre et tout. Et on était là à bloc à plus de 80 km/h dans les descentes et tout. On était vraiment des gros débiles. On a vraiment été un cerf comme ça et tout. C'est comme quand l'avion de chasse, tu vois. Quand l'avion de chasse, il est passé au-dessus, bah nous, quand on a descendu la Malocène, c'était pareil. Il y avait les gens, quand on passait à côté des gens, ils avaient l'écho, tu vois. Comme ça, tu vois. Il y avait le mur. On passait le mur du son à côté d'eux. C'était pareil, tu vois. Et là, je vous le dis, les gens, si vous n'avez pas des freins à disque, achetez des putains de freins à disque. Parce que les freinages qu'on mettait dans la gueule au vélo, les freins devaient être rouges comme les freins de Formule 1, quoi. Ça devait monter à 700 degrés, au moins, franchement. Et là, ça déboîtait de descendre le truc à cette vitesse-là. Il y avait les voitures. J'avais pas le temps pour les voitures. Elles me ralentissaient. Clac, clac, j'éclate les dents et tout. Gros plateau, petit pignon. Pou, 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 à chaque virage. Grosse relance. Allez, j'ai pas le temps. Hop, je double les voitures. Toujours le cerveau éteint. Tac, on y va à fond. Voilà, c'était trop bien. Et franchement, le Mont Ventoux, là, je l'ai monté, je l'ai descendu. C'était vraiment un kiff. C'était top, quoi. Franchement, c'était top. Si vous voulez descendre le Ventoux, je vous conseille de descendre par Malocène. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus safe. Ou alors, si vous avez peur, hein, descendez par Sault. Hein. Évitez Bédouin. Bédouin, c'est un peu le bordel. T'as toujours des bagnoles qui montent, qui avec des mecs qui suivent des mecs qui sont genre des équipes soi-disant pseudo-pro, tu vois. Ouais, tu veux une banane, ouais, tu veux un gel, etc. C'est bon, le mec, ça fait 10 minutes qu'il a commencé à attaquer Bédouin. Faites pas style, le mec, il est en PLS, quoi. Voilà. Ouais, donc Malocène, la descente, c'était le pur kiff, quoi. On a descendu ça comme des sagouins avec les autres. Je crois que la plus haute vitesse, je crois, c'était Bjorn. Je crois Bjorn Lennart, je crois qu'il a descendu le truc à plus de 90 km/h et tout. C'était n'importe quoi ce qu'on a fait. Mais bon, on a bien kiffé. Voilà. J'espère que vous allez kiffer votre prochain ride et que le podcast n'a pas été trop long, ni même que mon quart d'heure de gloire là n'a pas été trop long. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon ride à tous. Ciao, ciao.